Donc, alors si t'es partante, on peut commencer.
Oui.
Et la première thématique, ce serait de savoir si t'es d'accord, de me parler de ton parcours par rapport à Orléans. Est-ce que tu es originaire d'ici ou pas? Et sinon, d'où tu viens? Quand est-ce que tu es
D'accord.
arrivée dans Orléans?
Je peux y aller?
Ouais, vas-y.
Ben, j'ai vécu toute ma vie à Orléans ou dans les environs. Je suis
D'accord.
née à Orléans, à la maternité d'Orléans. Mes parents habitent dans un village qui est à environ 20 km. J'ai fait mes études au collège, dans un collège à la source, et puis
D'accord.
après dans un lycée à la source. J'ai commencé mes études supérieures dans un lycée pour faire une prépa à Orléans, dans le centre-ville, et puis après j'ai intégré l'université.
D'accord.
Donc on peut vraiment dire que j'ai passé toute ma vie
Toute
à
ta vie.
Orléans. Même si j'ai beaucoup voyagé par ailleurs, je suis allée très souvent à l'étranger, en Europe et
Oui.
ailleurs, et dans beaucoup d'autres villes, voir des amis, voir ma famille.
T'as
Mais
de la
c'est vrai
famille à
que...
l'étranger?
Non, j'ai des
Ou
amis
non?
à
Ouais.
l'étranger, j'ai des amis en Suisse et des amis en Allemagne. Je suis allée en Allemagne au moins 7 ou 8 fois,
D'accord.
assez souvent. Voilà.
D'accord. Et sinon, tu as donc passé ta vie
À
à
Orléans.
Orléans ou dans l'agglomération,
Ou
quoi.
dans sa banlieue immédiate, ou
Ouais.
ses campagnes plus éloignées. Donc oui, je connais assez bien le département, je connais assez bien Orléans, sa région. Voilà.
Et tes parents, donc, tu disais qu'ils habitent à une vingtaine de
Ouais.
kilomètres d'ici?
Mais mes parents ne viennent pas d'Orléans.
D'accord. Et
Voilà.
ils viennent d'où?
Mon père vient de Troyes, il est né à Troyes,
Ouais.
et ma mère vient de Courtenay, près de Montargis.
D'accord.
C'est un village à quoi, 15 km de Lyon. C'est entre
Courtenay?
Montargis et Sens, Courtenay.
D'accord.
Voilà. Ils ont
Donc de
fait
la région quand même.
de la
Enfin,
région quand même.
ouais.
Oui,
Et
mais
ils
bon.
sont arrivés ici pour le travail ou des choses
Ils
comme
sont
ça.
arrivés ici, pas immédiatement, ils ont beaucoup voyagé. Et puis, quand ils ont eu un poste à peu près stable, ils sont venus s'installer dans notre village il y a 35 ans maintenant.
D'accord.
Voilà.
C'est pourquoi tu es né là.
C'est pourquoi je suis née là. Voilà.
Et tu y as vécu, et tu y vis
Et j'y vis.
toujours.
Et je continue d'y vivre.
Et alors, ça te plaît?
Ça me va. Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je me contente, je ne peux pas dire de peu, mais je ne suis pas très regardante. Je pense que la vie et la ville dans laquelle tu vis, elle est ce que tu en fais.
Ouais.
Ce qui fait
Mais
qu'une ville...
t'aimerais en partir, voir, enfin, ou pas forcément.
Ce qui fait qu'on quitte une ville, c'est parce qu'on a du travail. Et je ne m'amuserai pas à quitter Orléans pour aller ailleurs pour rien. Voilà.
Même si,
Mon compagnon vit à Rennes, il souhaiterait que je vienne à Rennes, mais tant que
ouais.
je n'ai pas de travail à Rennes, je ne partirai pas.
Ouais. Même si, parce que là tu donnes des cours donc
Oui.
à la fac, oui donc
Non, à l'IUFM.
à
Mais enfin,
l'IFM.
ça dépend de la fac. Je donne des cours à l'IUFM, à Orléans et à Chartres.
Ah ouais,
Et à
ah
Blois
oui.
aussi, un peu de
Ah
temps en
oui,
temps.
ah
Oui.
oui.
Mais j'ai un
Donc,
travail, un
oui.
bon travail, bien payé.
T'as
Donc, à temps
un
complet,
temps
oui.
complet. Mais ça te fait beaucoup d'heures alors dans la semaine.
C'est réparti de manière un peu particulière et de toute façon l'emploi du temps de l'IUFM est différent de celui de la fac. Je pense que sur la fac, il y a peut-être 25 semaines de cours par an, quelque chose comme ça, 24,
Ouais,
25.
24, des fois 12.
Et à l'IUFM, la rentrée était officiellement le 1er septembre pour les professeurs et le 2 septembre pour les étudiants. J'ai en pratique donné mon premier cours le 2 octobre et je donne des cours jusqu'au 20 mai. Donc
D'accord.
c'est dilué
Ouais.
sur une période beaucoup plus longue.
Et peut-être qu'il y a aussi des périodes plus chargées parce que
Oui, là par
avant.
exemple, j'ai donné des cours lundi, mardi, mercredi et
Ah oui.
jeudi. Mais la semaine prochaine, je ne donne aucun cours.
Ouais.
Ça
Pour
dépend.
la thèse, c'est peut-être pas mal.
Pour la thèse, c'est pas mal. Et pour se reposer aussi, c'est pas mal. Ça me fait de grandes journées, mais au moins, j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose. Je trouve que c'est mieux que d'aller donner 2 heures le
Deux heures
matin,
par-ci. Ouais.
2 heures le lendemain après-midi.
Ouais,
C'est plus compliqué pour l'organisation.
c'est sûr, c'est sûr.
Et donc, comme je te disais, quitter une ville pour quitter une ville.
Oui, puis là, voilà, t'as du travail ici,
On
tu peux
peut
pas bouger, quoi.
voyager,
Ouais,
mais...
ouais.
Et puis c'est important dans nos domaines d'avoir un réseau, au moins quand on commence.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Ça compte. Mais si demain on me propose le même travail ailleurs, ou que je l'obtiens, je
Oui, tu
partirai,
iras, tu iras.
sans problème. Mais, bon.
Et puis là, de toute façon, tu peux pas partir, t'as un
Ah non,
travail.
j'ai signé.
C'est la première année que tu es à terre ou
Oui,
d'accord.
c'est la première année.
Donc tu pourras en faire encore
Un an,
un
j'espère.
an.
On
Et
verra
avant,
bien.
tu étais monitrice?
Non, j'étais simplement allocataire de recherche.
D'accord.
Mais je ne voulais pas être monitrice, je voulais
passer... Ah, t'as pas voulu.
Non, non, je voulais pas, il me semblait que, bon, je bénéficiais d'une bourse, c'était déjà très bien, il fallait que j'avance.
Mmh. Et t'as donné quelques vacations de cours ou
non?
Non, tu faisais vraiment que la thèse.
Que ma thèse.
Ouais. C'est bien ça, d'avoir du temps pour faire que sa thèse.
Oui, c'est bien. C'est bien. Ça prend du temps de faire une thèse en
ben
sciences
ouais,
humaines.
En fait.
Je n'ai pas de stagiaire qui lit mes livres. Je n'ai pas de stagiaire qui fait le travail préparatoire, donc je l'ai fait toute seule. C'est vrai que lire des livres, ça prend un temps infini.
Ben ouais, c'est sûr.
Et puis j'ai fait un voyage aux États-Unis. Je suis partie 4 mois, 4 mois et demi.
D'accord.
Donc,
pour ta thèse?
Pour ma thèse, pour aller chercher des archives.
D'accord.
Donc,
eh ben ouais, c'est du temps. Quoi.
C'est du temps.
C'est du temps.
Il n'y a pas à dire.
Ouais.
Donc voilà.
D'accord. Et ta thèse, justement, elle porte sur quoi?
Est-on censé
parler?
Est-on censé parler de ma thèse?
On parle de ce qu'on veut.
Alors.
Et moi, je veux parler de ta thèse.
Ah. Ma thèse porte sur un sujet de civilisation américaine. L'histoire du sud des États-Unis. La manière dont la guerre de sécession a influencé les relations dans les familles blanches du Sud.
D'accord.
Et plus particulièrement, les relations entre les frères et sœurs. Parce que cette question-là, des relations entre frères et sœurs, est assez peu abordée en histoire américaine. On a beaucoup traité de l'histoire des femmes, c'était un sujet à la mode à partir des années 70. Ça a été un peu moins à la mode à la fin des années 90 et au début des années 2000, bah, ça revient un peu.
Ouais.
On a aussi beaucoup parlé des relations entre noirs et blancs après la défaite de la Confédération. Parler un petit peu des relations entre les parents et les enfants ou entre les époux, mais pas trop des relations entre frères et sœurs. Et moi, je viens d'une grande famille.
Ah.
Moi, je viens d'une grande famille, et quand tu viens d'une grande famille avec de nombreuses sœurs ou frères et sœurs, tu te rends compte que finalement, c'est la bonne entente entre les enfants qui garantit, une fois que les enfants sont adultes, l'unité de la famille.
Ouais.
C'est ça qui fait. C'est ça qui fait que la famille tient. Et lorsque j'ai lu tous les livres que j'ai lus pour préparer ma thèse, je me suis rendu compte que finalement, peu de gens se posaient cette question. Comment les frères et sœurs ont-ils réagi face à cette défaite? Mais c'est un contexte particulier, le contexte du Sud, à cette époque. On a une idéologie patriarcale très forte. C'est-à-dire que toi, tu es une jeune femme, tu as donc des frères aînés ou cadets, mais qui, en tant qu'hommes, ont un droit de regard sur ce que tu fais. Mais en échange de quoi? Ils doivent te protéger, te fournir de quoi vivre. Voilà. Ils l'ont fait avant la guerre, le font-ils après la guerre? Que se passe-t-il?
Et donc, ouais, ton hypothèse, c'est ça, c'est d'aller observer les conséquences de la guerre sur cette relation.
Sur cette relation. Bon, c'est un point de ma thèse. C'est le point d'innovation et de creuser... davantage les autres types de relations. Mais c'est ça le point le plus intéressant, parce que c'est le point dont on ne parle jamais. Et tu te rends compte qu'après la guerre, de nombreux frères reviennent et ne prennent pas en charge leur devoir de protection, ne vont pas travailler, ne nourrissent pas leurs sœurs, ne s'en occupent pas, mais exigent d'elles, évidemment, qu'elles continuent à obéir. Et exigent aussi de toujours avoir le droit de contrôler leurs relations, ce qu'elles font, où elles vont, à qui elles parlent. Relations amoureuses éventuelles. Qu'on voit ici un point de discorde encore plus prégnant et important que ça ne l'était auparavant.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et donc tu t'appuies sur des textes? Comment tu fais pour...
Mes sources sont principalement constituées de lettres que les différents membres d'une famille s'envoient les uns aux autres.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que tu as une grande variété de points de vue. Sur un même événement, tu vas avoir les points de vue de plusieurs personnes. Donc tu as un regard, si on peut dire, plus objectif qu'avec d'autres sources qui sont les journaux intimes. Je travaille aussi sur des journaux intimes qui sont écrits, pour le coup, par une seule personne.
Ouais. Et tu y as eu accès comment?
Il y a beaucoup de journaux intimes écrits par des femmes du Sud de cette époque qui sont publiés. Et puis il y en a aussi certains qui ne sont pas publiés, que j'ai trouvés lorsque je suis allée aux États-Unis.
D'accord.
Voilà.
C'est chouette.
C'est chouette, oui, c'est chouette. Mais le problème du journal intime, c'est que, eh bien, il faut savoir ce qu'on écrit. Est-ce que c'est vrai? Quelle est la proportion entre la vérité, la part des sentiments personnels, et puis aussi tout ce qui n'est pas dit. Tout ce qui n'est pas dit est extrêmement important. Dans un journal intime, pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on s'attend à trouver des montagnes de sentiments, de ressentiments, de rancœurs, de fantasmes, un tas de choses qui ne sont pas écrites dans ces journaux-là. Parce qu'à l'époque, les journaux intimes étaient considérés comme un, pas un produit littéraire, mais une sorte de tradition d'écriture.
Et aujourd'hui, on
et donc les gens les lisaient. Il était fréquent de les laisser à la disposition de ses proches. Donc la plupart du temps, ils étaient destinés.
Mais c'est ce qui a permis aussi peut-être qu'ils soient publiés. Sans ça, on n'y aurait peut-être pas accès aujourd'hui.
Ça dépend. Certains sont publiés parce qu'ils font référence à la vie quotidienne. Par exemple, le nombre d'hectares de terre que l'on avait, quand on faisait telle culture, qu'est-ce qu'on faisait quand on tuait le cochon, combien de kilos de viande on en tirait. Ce qui pour moi est assez peu intéressant, il faut bien le dire. Ça donne un éclairage sur la vie quotidienne, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. D'autres sont publiés parce que, bah parce que c'était la mode ou parce que c'était une personne assez célèbre ou une personne du coin. D'autres encore sont publiés parce qu'ils ont vraiment une grande valeur informative sur vraiment la guerre de sécession, comment ça s'est passé, comment les gens y ont été sensibles, comment ils ont réagi. Ouais. Ça dépend. Ouais. Mais c'est le problème quand tu fais une thèse, tu lis les sources et tu te rends compte après lecture que finalement elles n'étaient pas très intéressantes. Ou qu'au contraire, c'était une mine d'or.
Mais avant de commencer, tu ne le sais pas. Voilà, faut le lire pour s'en rendre compte. Quoi.
Voilà. Et puis, tu peux te rendre compte de la fréquence des thèmes abordés. Ouais. Il y a des choses auxquelles tu t'attends que tu ne vas jamais trouver.
Et par exemple, tu en as combien des journaux intimes ?
C'est un peu... Je crois que j'en ai une cinquantaine.
Ah oui ?
Oui, une cinquantaine. Peut-être un peu plus. J'ai un peu moins de collection de lettres de famille, parce que du coup, c'est plus difficile.
Et donc, les lettres, comment tu as pu y avoir accès ?
Alors, il y a aussi des collections de lettres de la famille Intel, par exemple, qui vont être publiées. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Ou alors, là, les lettres, ça a été vraiment ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans les archives, où tu vas voir les collections de lettres de la famille Intel, qui étaient passionnantes, Mais qui, je pense, pour... pas le commun des mortels, mais des gens qui ne font pas de thèse ou qui ne font pas de recherche particulière sur un point, serait moins intéressante.
Il n'y a pas
d'intérêt particulier. Non. On ne te parle pas de la vie quotidienne. Bon.
Non, mais si tu as un point de recherche qui t'intéresse, par contre, c'est super intéressant.
Quoi. Et d'avoir de multiplier les points de vue, c'est utile.
Et oui. D'accord, c'est intéressant.
Voilà.
Et là, t'en es à rédiger
Ouais. C'est le moment le plus agréable.
En français ou en anglais, tu veux la
rédiger ? En français. C'est un problème, d'ailleurs. Parce que tu peux rencontrer des gens aux États-Unis et tu peux pas les inviter à ta thèse parce que, finalement, ils ne parlent pas français.
Ils lisent pas le français.
Ils lisent pas le français et la soutenance se tient en français, sur un texte écrit en français.
Et oui, alors que ça concerne...
Ce qui, d'un point de vue personnel, me pose problème, parce que toutes les sources que j'ai lues sont écrites en anglais, naturellement. Tout ce que je dois citer le texte en anglais, il faut que je le traduise.
Ah, tu traduis tout ?
Ben, les citations que tu vas mettre dans ton texte, si tu veux que ton texte ait un sens, il faut bien traduire la citation, même si tu la remets en anglais, dans sa langue originale, mais... Sinon, ça
n'a
pas de sens.
Oui, c'est des gens qui lisent.
Tu vas mettre référence, livre, tel titre, page, telle page. Mais il ne faut pas faire d'allusion, il faut expliquer les choses clairement.
Oui, mais en citant en anglais, si tu citais ton... C'est pas dans les pratiques, non, c'est pas...
Ou alors expliquer, faire une glose de la citation. Mais tu peux pas faire une simple référence sans expliquer la chose.
Non, mais je voyais, tu vois, le citer, tu copies-colles, enfin, tu recopies. Là.
Je ne sais pas comment faire. Mais il me semble que ça n'aurait pas trop de sens. Si on écrit en français, on écrit tout en français, quitte à faire la citation après en anglais.
Oui, voilà, c'est ça.
Sinon, ça n'a pas de sens. Mais je trouve que c'est assez bizarre pour moi d'écrire ma thèse en français. Parce que du coup, c'est un vrai problème. Les mots te viennent en anglais, l'explication te vient en anglais, ton texte, il est en anglais.
Et on n'a pas le choix, en fait. Si tu fais une thèse en France, il faut qu'elle soit rédigée en français.
Pour qu'elle ait une valeur, il faut ensuite que je la traduise en anglais.
Super.
Quel programme.
Double travail.
Quel programme.
Bon, mais plein de projets, alors.
Oui, plein de projets. Il faut passer à la phase de mise en œuvre.
Et c'est la plus difficile, je pense, non?
C'est la plus difficile et puis c'est un peu démotivant. Je dois
c'est
dire.
C'est tellement long.
C'est tellement long et tu vois tes camarades qui terminent avant toi. Tu en vois qui ne terminent jamais.
Ouais.
Tu ne sais pas ce qui t'attend parce que ton métier ou tes aspirations sont au cœur de réformes.
Ouais.
Et à côté de ça, tu donnes des cours. Donc tu fais passer tes cours avant ton travail personnel.
Tu fais d'abord passer l'urgent.
Ce qui est normal. Je te sers du café.
Je veux bien.
Et c'est démotivant.
Merci.
Et puis tu te rends compte que finalement, tu as beau travailler très dur, tu n'es pas grand-chose. Ça n'intéresse personne, le travail de thèse.
Une thèse, c'est tellement pointu sur...
Pour le commun des mortels, ça n'intéresse personne. Et parfois, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Quand vais-je finir? Voilà, l'angoisse du le blues du thésard.
C'est ça. Pourquoi je suis là?
Qui suis-je, vais-je? Les grandes questions métaphysiques. Voilà. Il y a 9 sous le soleil. Je pense que tous les doctorants sont passés par les mêmes phases, les mêmes étapes.
Mais ça fait partie de la thèse. Hein.
C'est une course de fond. Rien que le fait de soutenir, même si le résultat est moyen, c'est déjà une victoire. Parce qu'on a fait quelque chose, on a terminé. Mais bon. Voilà.
Ouais.
Je suis aux 2/3 de ma course de fond.
D'accord. T'as passé la moitié, c'est positif tout ça.
Oui, j'ai fait les recherches.
Non, puis après, c'est vrai que quand tu commences à rédiger, tu vois ton objet qui prend forme, quoi. Oui. Et ça motive et donc ça incite aussi à rédiger. Pour moi, d'expérience, le plus dur, ça a été de commencer. À poser ses mots, à faire une première page, une deuxième page, puis après, une fois que
après,
c'est...
Et après,
ça vient.
Mais après, ça dépend des gens, ça dépend comment on fonctionne.
Oui, c'est sûr.
J'aime que tout soit clair avant de commencer.
D'accord.
Et donc après, j'avance assez vite. Ça m'agace beaucoup de rajouter des pierres à l'édifice qui est en train de se
construire. Donc c'est le travail préalable qui est plus long. Et
voilà.
Après...
Voilà.
Ok.
Bon,
très bien.
Je ne sais pas si c'est très bien.
On verra.
J'attends le jour de mon pot de soutenance avec impatience. Ce jour-là, ce sera une grande victoire pour moi.
Et puis c'est tellement... c'est un bon moment. Honnêtement, c'est un bon moment.
Je pense que l'on est toujours déçu. On voudrait la meilleure mention. La plupart du temps, on l'obtient pas. Et ça doit être un moment assez... C'est la fin de quelque chose... C'est toujours un peu angoissant de tourner une page.
Ah, c'est sûr.
Mine de rien, on est content de terminer sa thèse, mais...
Je crois que c'est ça qui prend quand même le dessus sur...
Ça doit être assez angoissant. Bon.
Ce qui prend le dessus, c'est de finir de finir la thèse, quoi. Après...
peut-être que le lendemain, ça doit être un peu différent, mais sur le moment, oui, on a terminé sa soutenance aussi.
Le
public, tous les proches sont là...
Et donc là, t'es à terre dans le département d'anglais.
Oui.
Et tu navigues donc entre...
Orléans et Chartres, principalement.
Et pour donner des cours d'anglais.
Oui.
De langue.
Oui, de langue.
Je
prépare les étudiants qui vont passer le concours de recrutement pour être professeur des écoles.
Pour être prof des écoles. Ils ont des cours d'anglais.
Depuis quelque temps, il y a une épreuve d'anglais à l'oral au concours. Et donc, je prépare ces étudiants de première année, ou de première année, mais qui redoublent, au concours, à l'épreuve d'anglais.
D'accord.
Donc, on travaille sur des textes. On fait de l'oral, on fait un peu d'écrit, mais pas trop. Je leur donne des textes, et on travaille sur ces textes.
D'accord.
Parce que c'est un peu difficile pour eux. Ces étudiants auront une épreuve d'oral, mais basée sur un texte qu'ils devront comprendre, présenter... Et dont ils devront discuter.
Qu'ils connaissent pas.
Ah non, c'est une épreuve libre. Donc oui, ils ne connaissent pas le texte.
D'accord.
Un texte qui peut parler de tout et n'importe quoi.
D'accord. Et après, il faut qu'ils parlent de ça.
Le jury, tout en essayant de rattacher la thématique principale du texte à des problématiques liées à l'école primaire. grave problème. Donc, grave problème. Certains d'entre eux sont à l'aise en anglais, d'autres pas du tout.
C'est ça.
Et puis surtout, ils ont assez peu d'heures de cours. Pour les premières années, il y a 48 heures de cours, et pour les redoublants, 30 heures seulement sur l'année.
D'accord.
Donc en 30 heures, il faut que je remette tout le monde à un niveau à peu près acceptable. Et comme en plus, ils auront une validation dans toutes les matières pour les équivalences de master, il faut que je fasse des petits contrôles en écrit, en oral, en compréhension de l'oral.
48 heures.
Oui, pour valider, parce que quelqu'un qui parle une langue, bien sûr, il sait la parler, il sait la comprendre, mais il sait l'écrire un minimum, il sait la lire un minimum, c'est pas seulement parler. Donc c'est parfois un peu compliqué. La tâche est très ardue par rapport au nombre d'heures.
On demande beaucoup, voilà. On demande beaucoup pour un nombre d'heures.
Et c'est compliqué. C'est compliqué pour certains.
Et t'es guidée pour ça ? Vous avez travaillé en équipe ou
Oui, j'ai été très bien accueillie par ma collègue d'anglais de l'IBFM d'Orléans.
D'accord.
J'avais déjà pris quelques contacts avant de commencer, donc j'ai passé mon été à préparer des cours, réfléchir à comment faire les choses. Donc ce que j'avais préparé dans l'ensemble, ça allait. Et puis elle m'a vraiment bien guidée, on a vraiment travaillé ensemble.
D'accord,
c'est important. Oui, c'était agréable. Ouais. On a mis en commun nos travaux.
Et donc elle donne plutôt les cours sur Orléans et toi
Non, elle donne des cours un peu différents. D'accord. Moi je m'occupe de vraiment enseigner la langue, la grammaire, faire les cours d'oral, tout. Et elle s'occupe plus d'autres étudiants, elle s'occupe d'enseigner la didactique de l'anglais. Comment on bâtit un cours d'anglais en primaire ? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Comment on leur enseigne l'anglais ? Ça tombe bien d'ailleurs, parce que ça, c'est pas du tout ma spécialité.
D'accord. Oui, t'es pas
donc,
didactique, quoi.
Non. Si j'avais dû apprendre, je l'aurais fait. Mais c'est vrai que dans l'optique de préparer des gens au concours, il vaut mieux que ce soit elle qui s'en charge.
Et toi, les cours de langue ?
Moi, les cours de langue. Et du soutien pour les élèves les plus en difficulté. Donc vraiment de la langue à fond, de l'oral.
Et ça te plaît ?
De l'oral. Oui, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît beaucoup.
Les étudiants sont agréables ?
Pas toujours.
Ouais.
Pas toujours agréables et pas toujours assidus, mais bon, on fait avec le public que l'on a en face de soi.
Et tu dois sentir le stress qu'il y a derrière.
Oui, je sens l'évolution d'une séance à une autre. Je vois une grande différence entre ce qui se passait au début de l'année, dans la classe, et ce qui se passe maintenant. Le concours, c'est dans un mois et demi. J'ai un taux d'absentéisme très important. Là. J'ai eu beaucoup d'absence cette semaine et la semaine dernière. Plus de 50%.
Ce qu'ils préparent chez eux.
Oui. Je sens le stress monter. Je vois les affinités qui se modifient aussi. Les étudiants qui étaient proches les uns des autres, qui ne le sont plus parce qu'un tel est moins bon. Donc on va se rapprocher d'un autre tel qui est meilleur pour espérer en tirer un bénéfice quelconque.
C'est assez... C'est un ambiance concours, quoi.
Oui. Oui. Enfin, voilà.
Enfin, voilà,
c'est un travail qui me plaît, mes collègues sont sympathiques, j'aime assez bien l'ambiance de l'IUFM.
Et les trajets, ça te pèse pas trop ?
J'aime assez conduire, j'ai une bonne voiture,
ouais.
Et maintenant il fait jour le matin et le soir.
Ouais.
En novembre, décembre, janvier, c'est plus pénible, c'est vrai, pénible. Je conduis péniblement de nuit. Mais bon, je pars toujours très en avance pour arriver à l'heure.
Ouais.
Tu sais, comme je te l'ai dit au début de l'entretien, ça va. Il se passe ce qu'il se passe, c'est pas grave. Je veux dire, tu as un super travail, tu travailles pas beaucoup, faut dire la vérité. Tu as beaucoup de temps pour ta thèse, je vais pas me plaindre de quoi que ce soit.
Non, mais si en plus ça peut te plaire, voilà.
Oui, ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment enseigner les gens avec qui je
travaille. T'avais enseigné avant cette année ?
J'ai longtemps donné des cours particuliers à domicile, mais c'est différent parce que t'es pas devant une classe.
T'es en face à face.
Mais ça te donne déjà une idée de comment faire.
Ouais.
Ça se passe bien.
Bon, c'est cool.
Voilà.
Très bien.
Je suis contente. Et apparemment, vu que je suis toujours là, les gens ont l'air contents de moi. Sinon, j'aurais été virée, je suppose.
Oui, et puis tu le sens, quoi. Si ça se passe bien,
c'est difficile de se juger soi-même. Tu peux avoir un point de vue positif sur ton travail et puis finalement te rendre compte que ça va pas.
Ouais, mais si, voilà.
Mais s'il n'y a pas de retour,
vite, voilà,
s'il n'y a pas de retour, c'est que ça va.
Les étudiants, ils se gêneraient pas pour dire quoi que faire remonter quoi que ce soit. Donc,
bon.
Donc, c'est bon.
La section thèse, c'était pas dans ton entretien.
Non, j'avais pas.
C'est une section personnelle. D'accord. Bon.
Tu n'y vois pas d'inconvénient?
Non. Mais je précise aux gens qui transcrivent que je ne laisserai ni mon nom, ni mon adresse.
C'est anonyme.
C'est anonyme.
Je ne l'ai pas dit.
Oui, certes. Mais enfin, des doctorants qui travaillent en civilisation américaine à l'Université d'Orléans, il n'y en a pas 50 000, vois-tu? Donc, c'est ce que j'appelle un anonymat relatif.
C'est vrai.
Bon. Revenons à la trame de l'interview.
La trame de l'interview. Donc, ben voilà, maintenant je suis perdue dans ma trame.
Oh, ces intervieweurs. Je suis déstabilisante.
Non. Donc, tu vis dans ce quartier qui s'appelle. C'est quoi le quartier en fait ici?
Je pense que c'est le quartier Bagné.
Bagné. Mm-hmm. Depuis.
Ça fera 5 ans en juin que j'ai emménagé dans cet appartement.
D'accord. Mm-hmm. Tu t'y plais dans ce quartier?
Oui, ça va.
Ouais.
Je me plais beaucoup dans mon appart.
Dans l'appart aussi?
Oh, il est super, ouais. Grand, lumineux, confortable.
Puis en plein centre-ville.
J'ai ma voiture à 3 mètres. Ouais. Ce qui est vraiment super top en centre-ville.
En plein centre-ville.
C'est quand même génial. Ouais. Mmh. Mes voisins sont très sympas. On s'entend bien.
Pour tout
l'immeuble. Il y a 7 logements dans l'immeuble.
Ah, pourtant, ça paraît grand. Enfin, immeuble, là ça fait une cour. Une sorte de cour, donc immeuble, c'est tout ce qui est.
Non, le bâtiment que tu vois là, c'est la cantine de l'école primaire.
Ah, d'accord.
Donc ça fait pas partie d'accord. de mon immeuble. Les bâtiments que tu vois là, c'est des voisins que je connais pas.
D'accord.
L'immeuble, c'est l'étage et puis ce qu'il y a au-dessus du porche.
D'accord. Et il y a une vie de.
Une vie, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons, on s'entend bien, on se dit bonjour, on se connaît tous. On connaît. Pas forcément les parcours familiaux, mais enfin, les us et coutumes de chacun.
D'accord. Et si tu as besoin de quelque chose.
Voilà, s'il y a besoin d'aide, on sait comment faire, on se parle, il n'y a pas d'anonymat, on sait qui fait quoi, qui est dans la galère, et voilà.
Ouais, puis si ça fait un certain nombre d'années que tu es là, tu les connais aussi d'autant plus, quoi. Ça a beaucoup.
Oui,
ça
mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Je veux dire, mon appartement précédent, j'y suis restée 3 ans. Et bien sûr, on avait des rapports cordiaux avec mes voisins, mais sans plus.
Mmh. Alors qu'ici, c'est autre chose, quoi.
Oui, ici, c'est autre chose. Je pense que le fait qu'il y ait une cour, qu'on puisse mettre nos voitures, que ce soit confortable, que ça ne donne pas sur la rue, tu vis plus. Tu te sens plus chez toi, tu vas plus laisser tes fenêtres ouvertes, tu vas plus prendre le temps de discuter avec les gens, tu gênes pas, tu n'es pas au milieu de la route.
C'est ça.
Où j'habitais avant, tu gênes. Tu gênes, tu ne peux pas te garer, tu es toujours pressé, tu es toujours stressé.
D'accord.
Ça joue, je pense.
Ouais. Donc, t'es bien là.
Oui, je suis bien là.
Et donc là, c'est en termes d'immeuble, mais en termes de quartier, plus, tu peux tout faire à proximité.
On peut tout faire à proximité. Puis la ligne de tram est vraiment à 5 minutes.
Oui.
Donc, c'est vraiment bien.
Donc, quand tu vas à la fac, tu vas en tram.
Ça dépend.
C'est long.
J'y vais en tram. Ça dépend si je vais seulement à la fac ou j'y vais en tram. Mais si j'ai autre chose à faire, après, je prends ma voiture. Mmh. Faire des courses ou ce genre de choses, je prends ma voiture. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors, maintenant, plus on a parlé travail, c'était bien, mais on peut parler loisirs.
Ah Les loisirs des doctorants. Oui.
Loisirs de doctorants et loisirs... par rapport à Orléans, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas au cinéma, au théâtre, ou c'est plutôt promenade? Enfin, comment tu vis tes loisirs à Orléans, en fait?
Je fais du shopping quand j'ai le temps, pas souvent, mais voilà, je vais au cinéma. J'allais beaucoup au cinéma, là, ça fait un moment que je n'y suis pas allée, mais je vais reprendre.
Ouais.
J'adore aller au cinéma,
oui.
C'est vraiment mon truc, de préférence toute seule.
D'accord.
Parce que quand on va au cinéma tout seul, on peut voir ce que l'on veut. Quand tu veux au cinéma avec quelqu'un, que tu veux voir un film turc qui va passer une semaine, il faut trouver la bonne personne. Et j'ai horreur des commentaires désagréables sur un film que j'ai adoré.
Donc pour ne pas prendre ce risque-là.
Voilà, je vais voir les films...
Que tu veux,
peu.
Quand tu veux.
Voilà. Et je sors avec mes amis.
Ouais.
Dans les bars, dans les restaurants, partout. Mm. Voilà. Mm.
Et cinéma, quel type de cinéma tu...
Je vais au Carmes.
Ouais.
La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps.
D'accord.
Quand je vais au cinéma seul, je vais au Carmes parce que ça concerne des films assez, disons, confidentiels. Ou alors en version originale. J'ai bien conscience que la version originale, pour les gens qui n'aiment pas lire les sous-titres, c'est vite fatigant. Et quand je vais au cinéma avec des amis, on va plus voir des films
autres, quoi.
Autres, plus grand public. Donc on va ailleurs. Voilà. Donc,
Et théâtre, non ?
De temps en temps, mais je pense que c'est une question de paresse.
Ouais.
Voilà.
Faut s'informer.
Parce que le théâtre, aller tout seul, pour le coup, c'est pas chouette. Et puis, le théâtre, c'est plus loin, faut prendre la voiture, tu rentres tard du boulot. Ben... Enfin, oui, je reconnais, là, c'est une paresse. c'est une paresse. Je vais de temps en temps à des concerts quand quelque chose me plaît.
D'accord.
Mais voilà.
D'accord. Et la télé, ça, non ?
Elle est là.
Ouais. Donc, télé aussi.
Ouais, enfin.
Internet.
Ouais. Télé, internet, mais c'est pas un loisir, internet.
Bon, ça, ça
je passe pas ma vie. Enfin, pour moi, c'est un outil. Tu vois ? Et puis
pour
la télé.
Travail,
pour le travail. Ouais. Et la télé, c'est fatigant. Regarder des émissions idiotes, c'est fatigant. Tu vois, je regarde un film qui va me plaire, mais si ça me plaît pas, j'éteins.
D'accord.
Je vais faire autre chose. J'ai jamais la télé allumée en permanence.
D'accord. Ouais, t'es pas trop.
Non, plus la radio.
Ouais.
Plus la radio. Je trouve qu'on peut faire des choses en écoutant la radio. On ne peut pas faire grand-chose en regardant la télé, parce que pour le coup, ça t'absorbe complètement.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Et lecture ?
Ah, la lecture, c'est mon grand regret. Quand tu fais une thèse, tu ne peux pas lire ce que tu veux. Tu lis, tu as peu de temps pour lire des choses. Et j'ai acheté des kilos de livres qui me plaisent beaucoup, que je lis.
Tu n'as pas eu le temps de...
J'en lis un de temps en temps, mais c'est un grand plaisir et en même temps une frustration terrible.
Bon, faut attendre la fin de la thèse pour
pouvoir relire. Alors les vacances.
Oui.
Tu vois, je vais chez mes parents 2-3 jours, j'emmène pas mon ordinateur et je lis des bouquins.
Ouais. Là, c'est le plaisir de lire.
Le plaisir de lire. Mais voilà, ça me manque un peu.
Ouais. On y reviendra.
Oui. Enfin, d'ailleurs, tu vois, il y a des livres partout.
Ouais. Mais voilà, pas forcément ce que tu as envie de lire le soir avant de t'endormir, quoi.
Ici, ça va. Si. Enfin, non, pas l'encyclopédie, mais tout le reste, ça va. Ça va. J'en ai lu une bonne partie, mais c'est vrai que certains m'intriguent. J'ai hâte de les ouvrir.
Comme quoi, par exemple ?
Je sais pas, j'ai acheté quelques bons livres, des livres de Blaise Cendrars, d'autres livres comme ça.
Et tu lis en anglais, j'imagine, aussi.
Ça dépend.
Non, pas.
Ça dépend. Si ce sont des écrivains français ou francophones, je lis en français. Si c'est écrit en anglais, je lis en anglais.
Ouais.
Voilà, ça dépend.
Ouais. Et les voyages, tu parlais des voyages un peu au début, en Allemagne et en Suisse.
En Allemagne, en Suisse, en Italie.
Ouais.
Bah, aux États-Unis. J'y retourne dans un mois.
Tu y allais souvent aux États-Unis ?
Non, j'y suis allée une fois.
D'accord.
Pendant 4 mois et demi. Oui. Et j'y retourne dans un mois et demi.
D'accord, après les cours.
Non, pas non. Après les cours, pendant après les vacances de Pâques.
D'accord.
Avant le concours.
Voilà. Avant le concours, voilà, parce que j'avais en tête un mois et demi, tu vois, on avait parlé d'un mois et demi tout à l'heure, c'était le concours.
Je pars le 13 avril, donc ça fait même pas un mois et demi, ça
d'accord.
fait quelques semaines. Ouais.
Pour combien de temps ?
Pour une semaine.
Ah, ça va être rapide.
Ouais, mais je vais à un congrès faire une présentation.
D'accord.
Donc voilà, le congrès dure 2 jours, 2 jours et demi. J'ai pris, j'ai prolongé un petit peu.
Ouais.
Voilà.
C'est où, aux États-Unis ?
En Virginie.
D'accord.
Au sud de Washington, à environ 250 km. Voilà.
C'est
j'ai hâte d'y être.
Bah oui, sûrement. Et des colocs, t'en as déjà fait
Peu.
Ça te stresse pas trop ?
Non.
Non ?
Non.
Bon, bah, voilà.
Je vais pas mentir, c'est stressant de prendre la parole en public devant un public de connaisseurs
c'est
qui
ça.
Va chercher la petite bête, mais tu sais que tu dois le faire, tu sais que tout le monde va être soumis au même traitement. Donc, sur le coup, tu ronges ton frein, puis après, tu te dis que tu l'as fait. Je veux dire, oui, ça me stresse un peu de faire cette communication à l'étranger, devant un public d'inconnus, mais bon, en même temps, tu l'auras fait.
Oui, bah oui.
C'est ça qui compte.
Content de l'avoir fait. Tu seras content de l'avoir fait.
Très bien.
Et sur. Là, on a parlé des choses que tu faisais dans Orléans. Et maintenant, plus sur ce que tu en penses, en fait, de la ville d'Orléans, alors que ce soit de la vie qui s'y passe, par rapport à ses équipements, par rapport aux fêtes qui s'y passent. Quel est ton regard, finalement, critique, positif ou négatif sur...
Je trouve que c'est une ville agréable à vivre. Pour des gens qui sont en centre-ville ou dans la banlieue immédiate, c'est agréable à vivre, on peut sortir, trouver tout ce que l'on veut. Il me semble qu'il y a du travail, peut-être pas dans tout, c'est vrai, mais il me semble qu'il y a du travail. C'est une ville qui se développe. Bon, j'aurais une grosse réserve à apporter sur la police en général et la question de la sécurité. Il me semble qu'il y a trop de police dans cette ville. Et c'est une chose qui me dépasse, qui m'inquiète et qui me dérange. Voilà.
Ouais.
Je m'amuse souvent quand je sors à compter le nombre de policiers en voiture, en vélo, en estafette. Et j'en croise en moyenne 30 par jour, ce qui me semble beaucoup. Ça m'agace.
Plus
les caméras, plus tout. Et ça m'agace. Ça me fait me sentir plus en insécurité que si je ne les voyais pas. Voilà. C'est ma grosse réserve.
D'accord.
Après...
Sinon, un avis plutôt positif sur...
Un avis plutôt positif, il me semble que les gens sont peut-être froids au premier abord, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà. Je suis allée dans d'autres villes que l'on qualifiait de plus agréables, plus jeunes, plus dynamiques, et j'ai pas été convaincue.
D'accord.
Voilà. Par, disons, la gentillesse ou la chaleur humaine de ces personnes, de ces villes, j'ai pas été convaincue.
Donc, s'il y avait des choses à améliorer, ce serait...
Moins de police.
Moins de police.
Moins de police et moins de pression policière et moins de répression policière.
Ouais.
Notamment sur les jeunes gens de couleurs un peu différentes. Notamment sur les clochards avec leurs chiens qui boivent des bières dans la rue. Je ne vois pas qui ça dérange que ces clochards boivent une bière dans la rue. Voilà. Mais c'est peut-être pas typique à Orléans. C'est peut-être plus typique à l'esprit du temps.
Ouais. Mais ouais, il y en a quand même beaucoup, je pense, ici, par rapport à...
Il y en a beaucoup ici, et j'entendais beaucoup de gens qui disaient « Haha, il y a beaucoup de policiers à Orléans », mais je me rends compte que c'est pareil partout. Rennes, par exemple, est une ville de gauche, qui a longtemps été une ville de gauche et qui est toujours une ville de gauche. Quand j'ai commencé à aller à Rennes, il y a 2 ans, il y avait peu de policiers. Et là, depuis 6 mois, la ville est infestée de policiers, presque autant qu'ici. Ça dépend.
Ouais.
Je pense que c'est l'esprit du temps. Je pense que dans l'ensemble, les citoyens, la population, sont satisfaits et en est plutôt contente. Et que c'est ce qu'elle recherche. Mais moi, pas. Mais moi, pas.
Ni à Orléans, ni ailleurs.
Ni à Orléans, ni ailleurs.
Ouais.
Mais bon.
Ouais. Et le fait que... est-ce que peut-être Orléans, est-ce que... Orléans te plaît parce que c'est une ville pas très grande, à taille humaine, quoi. C'est, enfin, est-ce que tu préférerais que ce soit plus grand ou ça te va comme ça ?
Orléans me plaît, je pense, parce que premièrement, c'est ma ville.
Oui.
Et je pense qu'on a toujours un attachement pour sa ville. C'est ma ville, c'est là que j'ai beaucoup de souvenirs, c'est là que j'ai commencé ma vie, c'est là que... Voilà, donc... Je pense que c'est une raison.
Ouais. Hein,
le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est ma ville, donc elle me plaira. Je pense toujours, même si j'y trouve certains défauts.
Ouais.
Elle me plaît aussi parce que d'abord, c'est pas loin de Paris. Donc si tu veux prendre un grand bain de foule, c'est pas loin.
Tu y vas justement de temps en temps.
Oui, de temps en temps.
Pour une journée.
Pour une journée, oui. Ouais. Voilà, que l'on
faire
peut faire beaucoup. Non.
Non,
c'est pas intéressant. Enfin, j'y vais pas pour ça. J'y vais pour aller à des expos ou aller à des concerts.
Ouais.
Mais du shopping. Alors, tu sais maintenant avec Internet, si tu veux quelque chose que tu ne trouves pas sur place.
C'est très facile.
C'est très facile. Non, mais c'est une ville à taille humaine.
Ouais.
T'es pas loin de Paris, t'es pas loin de la forêt, t'es pas loin de la nature. Il me semble que
ça fait que c'est agréable, quoi.
Et puis, c'est vrai, c'est peut-être une ville moins jeune qu'ailleurs, mais enfin, on n'est pas entouré de petits vieux. Donc, ça va. On peut faire des choses. Quand même, on peut sortir. Ça va. Je ne vivrai pas à Blois, à Chartres ou à Châteauroux, par contre.
Pourquoi ?
Parce que ce sont des villes plus petites, peut-être plus jolies. Peut-être que Bourges et Blois sont plus jolies, c'est vrai. Je l'admets. Elles sont plus petites, trop petites.
Trop petites.
Et le seuil de taille critique pour en faire une ville vivable n'est pas atteint. Et voilà, du coup, il y a moins d'étudiants, du coup, il y a moins de vie, du coup, c'est pas suffisant.
Ouais.
Voilà, il me semble qu'une ville de la taille d'Orléans ou qu'une ville de la taille du Mans, Ce sont des villes comparables, en fait.
D'accord.
Ça va. Tu vois, 120 000, 130 000, ça suffit.
Ouais.
Mais en dessous, 80 000, limite. 60 000, je pense que oui, c'est un peu limite.
Ouais.
Après, ça dépend de ce que l'on cherche.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà.
D'accord. Et dans le cadre de notre projet, là, donc, on s'intéresse à la langue et on s'intéresse aussi aux différentes langues qui sont parlées à Orléans.
Mmh.
Et par rapport à ça, est-ce que tu as déjà fait attention à d'autres langues qui seraient parlées dans Orléans quand tu te promènes ou quand
oui.
Et oui. T'entends quoi ou ça te fait penser à quel type de langue si t'arrives
Je sais que beaucoup de gens parlent portugais à Orléans. Des gens d'un âge certain déjà, je dirais, d'une soixantaine d'années. Pas mal de gens parlent berbère ou arabe.
Ouais.
Mais un berbère ou un arabe matiné de français, comme je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord.
Mmh.
Ou même dans la langue au quotidien, il y a des mots d'origine française.
Ouais.
Et il y a beaucoup de langues africaines. Il doit y avoir du swahili, peut-être.
Ouais.
Mais je ne suis pas spécialiste
Non. Mais c'est juste, ouais, qu'est-ce que...
Mais il y a beaucoup de langues africaines.
Ouais.
Voilà. Et puis, on entend de l'anglais par les touristes ou les étudiants d'échange. Et du chinois, parce qu'avec les chinois de l'université, qui sont quand même assez nombreux, je pense, que l'on voit facilement en centre-ville. Mais voilà les langues que l'on entend
au
quotidien.
Et selon toi, est-ce qu'il y a une façon particulière de parler à Orléans, alors que ce soit un accent ou des structures, des mots particuliers à cette ville?
Je ne suis pas la personne la mieux placée pour te répondre.
Non, mais pour...
On ne se rend pas compte de son accent. Ce sont les autres qui vont se rendre compte de votre accent. Pour moi, je parle normalement. Mais pour quelqu'un qui vit à Toulouse, je vais avoir un accent amusant.
Mais est-ce que tu as été confrontée, par exemple, en allant justement ailleurs, à dire un mot que cette personne-là ne comprend pas ou...
Je dis, à titre personnel, je n'en ai pas pour long.
Je n'en ai pas pour long. Pour longtemps.
Au lieu de dire longtemps.
Mm.
C'est vrai que ça fait partie de ma façon de parler, mais je ne sais pas d'où ça vient.
D'accord. Tu ne sais pas si...
C'est peut-être
si
mon père qui dit ça parce que ça vient de Troyes.
Oui.
Je veux dire, nous, dans ma famille, on a des expressions qui sont inconnues ou peu fréquentes.
Mm.
Qui sont, je pense, des mots qui viennent de sa région. Donc, c'est compliqué.
Ouais.
Parce que c'est purement local. Je pourrais faire la comparaison avec certaines expressions ou certains accents bretons. Ou des mots que je ne connaissais pas, que j'ai découverts là-bas. Qui ne sont pas les miens, mais...
Ouais.
Voilà.
Mm.
Je pense que se juger soi-même et s'écouter, c'est compliqué.
Ben, ça, on s'en rend compte. À la limite, on peut s'en rendre compte quand on part.
Tu vois, je me rends compte que tu as un très léger accent.
Mm.
Ni méridional, ni autre chose.
Mm.
Je m'en rends compte parce que je t'écoute.
Oui.
Mais pour toi, c'est naturel.
Mm. Oui.
Et quand tu m'écoutes
parler...
Oui,
mais par contre, maintenant que je suis ici, enfin même avant, quand je suis partie pour faire mes études... C'est là que tu te rends compte, effectivement, des particularités de ton accent ou de ton lexique.
Moi, avec les Bretons, je me rends compte que je ne suis pas bretonne.
Oui.
Parce que j'ai des mots qui ne sont pas les leurs, et inversement.
Voilà. Ben, c'est ça. C'est quels sont tes mots à toi que eux n'auraient pas, quoi.
Je ne sais pas. Peut-être que j'en ai pas pour long, qui fait rigoler tout le monde. Qui fait rire tout le monde. J'en ai pas pour long, ça.
Ah, ouais.
C'est très naturel pour moi.
Ouais.
Mais d'où ça vient, je ne sais pas. Voilà.
De la famille ou de...
De la famille de 3, ou d'une création personnelle.
Voilà.
On ne sait pas. Voilà.
D'accord. Et peut-être une dernière question qui sort un petit peu du...
Du cadre.
Oui.
Ouh là là.
En fait, cette question, c'est... je ne sais pas si je t'avais expliqué, en fait, ces entretiens... Enfin, les entretiens là qu'on fait... cette année, ils avaient été faits il y a 40 ans en fait par des chercheurs. Bon, sous d'autres formes, ça a changé, mais il y avait une question qui posait systématiquement à tout le monde, une question culinaire, et ça nous intéresse de la reposer aujourd'hui juste pour voir, tu vois, pour pouvoir faire une comparaison sur au moins un point sur par rapport.
Si les Orléanais sont toujours bons en cuisine.
Non, c'est pas ça. C'est est-ce que tu pourrais me donner ta recette de l'omelette?
Ma recette de l'omelette?
Oui, comment tu fais pour faire une omelette?
Bien sûr que je peux te donner ma recette de l'omelette. Je prends deux œufs, je mets une bonne cuillère à café de crème fraîche, du sel, du poivre, de la ciboulette ou du persil, ou un mélange des deux. Tu bats tout ça et tu le fais cuire dans du beurre frit. Et t'attends que ton omelette gonfle. Voilà, ça fait une omelette soufflée absolument délicieuse.
Très bien, parfait. Eh bien, merci. Moi, j'ai à peu près fini ma trame, mais si tu...
Si j'ai quelque chose à rajouter sur l'omelette.
Sur l'omelette ou sur...
Et toi, comment fais-tu ton omelette?
Pardon?
Comment fais-tu ton omelette?
Alors, comment je fais mon omelette?
Fais-tu des omelettes, d'ailleurs?
Oui.
Manges-tu des œufs?
Oui.
Oui.
Mais oui, je fais des omelettes généralement pour le petit déjeuner du week-end.
Ah, bien, 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 bien.
Alors, je casse des œufs, je bats, je selle, donc j'ajoute du sel, du poivre. Selon si j'ai des herbes, je mets des herbes persil, essentiellement. Avant ça, j'ai fait chauffer ma poêle avec un tout petit peu d'huile. Je verse mes œufs dedans une fois qu'elle est bien chaude. Et j'attends que ça cuise. Mais j'aime bien quand c'est pas totalement cuit, qu'elle est un peu...
Ah, j'aime pas les omelettes baveuses.
Un peu baveuse.
Ah non.
Et voilà.
Et voilà. Dessert. Bon, nos recettes sont...
Je mets pas de crème.
Tu mets pas de crème.
C'est la seule différence.
Moi, j'en mets, mais bon.
Ah, mais ouais, souvent, après, je mets du fromage rien râpé.
C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Quand j'étais petite, on faisait des omelettes aux champignons. Des champignons
de la
forêt.
Voilà, après, si. Ah oui.
Ouais.
Bah, oui.
On allait aux champignons le samedi et on faisait des omelettes aux champignons. C'était bon.
Ah bah oui, c'est bon. Moi, si j'ai des champignons, ça va être des champignons de Paris, mais c'est pas mal aussi. Ça.
Non, c'était des girolles et puis des trompettes de la mort. C'est quand même vraiment bon.
Bah oui. Ça améliore bien l'omelette.
Ah oui.
Bon, on peut arrêter.
Voilà.